Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition du podcast de 24 images. Et oui, 24 images se lance dans du podcast avec une émission au concept extrêmement simple, mais qu'on espère alléchant et qui va se décliner une fois par mois. Alors ce concept, quel est-il ? Une animatrice, c'est moi-même, Hélène Faradji, et trois invités qui vont débattre dans les grandes largeurs d'une question qu'on espère essentielle. Pour briser la glace, ils ont été assez gentils pour accepter notre invitation et je les en remercie. C'est Georges Privé d'abord, critique de cinéma et réalisateur, notamment d'une série sur le cinéma québécois diffusée à Télé-Québec. Bonjour Georges.
Bonjour.
C'est Raphaël Ouellette, réalisateur de films qui se sont baladés un petit peu partout dans les festivals internationaux. On pense à Camion, à Gourov et Anna. On l'a aussi vu récemment à la télévision. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et Philippe Gageant, directeur de 24 images et programmateur au Festival du Nouveau Cinéma. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et bien sûr, je remercie aussi Pascal Plante qui s'occupe de la technique de cette merveilleuse première édition du podcast de 24 images. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui pour qu'on se pose cette question qu'il nous semblait important d'aborder d'entrée de jeu pour commencer tout ça, histoire de mettre les choses bien à plat sur la table. Le cinéma québécois est-il si spécial ? Alors c'est une question qu'on a voulu se poser tout simplement parce que depuis plusieurs années, on voit un certain succès à l'international du cinéma québécois qui se balade partout, à Venise, à Cannes, à Berlin. Ça fait plusieurs années que cette tendance-là, on peut dire, est marquée, mais paradoxalement, de l'autre côté, une véritable désaffection de ce cinéma-là dans nos salles québécoises, qui crée un véritable malaise. Et ce qui nous a donné envie de nous poser la question, mais qui a raison ? Est-ce que c'est ce public international qui a l'air de s'intéresser tout particulièrement à notre cinéma, ou c'est le public ici qui a l'air de plutôt se méfier de ce cinéma-là. Alors, la spécificité du cinéma québécois, il faut le dire, dans les dernières années, elle a surtout été démontrée par les détracteurs de ce cinéma-là. On en a parlé comme d'un cinéma gris, lamentaire, suicidaire. Et la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que ces caractéristiques, vous les trouvez adéquate. Alors peut-être que je demanderai d'abord à Raphaël ce qu'il en pense.
Ben oui, je pense que la vision extérieure qu'on peut avoir du cinéma québécois, ça peut être celle-là, puis elle n'est pas erronée. Est-ce que je peux revenir sur ta question plus large?
Mais bien la première, sûr, mais bien sûr.
C'est quoi le si spécial? Mm-hmm. Ben je pense qu'on n'a pas le choix de le reconnaître si on s'arrête aux faits, tout simplement. On est un peuple qui a une cinématographie nationale, mais on n'a même pas de pays. On est probablement les seuls au monde à avoir ça. Les Basques n'ont pas leur cinématographie nationale.
C'est vrai.
Les Catalans non plus. Les Ontariens et les Texans non plus. Ça n'existe à peu près pas nulle part dans le monde, tu sais. Et je pense pas que le public mondial s'intéresse à notre cinéma, mais la critique mondiale, oui, les sélectionneurs et les directeurs de festivals dans le monde, mm-hmm, également, et les cinéphiles plus pointus, plus poussés également. Donc, on est à peu près les seuls à avoir ça. Et après, si on se considère comme un pays, ben, il faut prendre la taille du pays, 8 millions, 10 millions, 12 millions, 15 millions. Si on se compare à ces gens-là, effectivement, on est presque surreprésentés dans les festivals internationaux. On est aussi assez bon pour les ventes internationales, la visibilité un peu partout sur la planète. Ça, c'est, pour moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel là. Après, mm-hmm, si on veut parler de qualité, ça sera autre chose. Mais, parce que j'ai beaucoup de nuances et de réserves là-dessus, mais ces faits-là, pour moi, c'est quand même assez exceptionnel, je trouve.
Mais je demanderais peut-être à Georges et à Philippe, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'effectivement, on est peut-être un peu les seuls au monde à avoir cette position très particulière, d'avoir un petit pays, même si on n'existe pas comme un pays, et une cinématographie qui a un rayonnement à l'étranger, peut-être pas unique, mais en tout cas assez spécifique. Georges ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il est spécial? Je sais qu'il est spécial pour nous et c'est normal. Je pense qu'il vient nous chercher très profondément. Il y a des jours où je trouve que c'est un cinéma extraordinaire et des jours où je trouve que c'est un cinéma imbuvable. Je pense que c'est normal parce que c'est de la famille, c'est notre cinéma. Mmh. Est-ce qu'il est spécial à l'étranger? Ça, on pourra en discuter longuement. Ce qui est sûr, c'est que on n'a souvent pas rendu compte de ces bons coups à l'étranger par le passé. Il y a eu des coups extraordinaires, il y a eu des cinéastes appréciés ailleurs dans le monde bien avant la vague relativement récente. Et les médias en rendaient pas tellement compte et ces gens-là n'étaient pas tellement célébrés. Et maintenant, on en rencontre de manière plus systématique, je pense, et ça, c'est très bien. Ça a cependant des effets pervers, je pense, que ça a amené à surévaluer la présence en festival dans les institutions, parce que c'est devenu un élément
comme
important.
Comme si ça comptait plus.
Comme si ça comptait plus. Mm-hmm. Ici, bon, c'est... peut-être que je devance la conversation, mais il y a essentiellement deux choses qui comptent, le box-office d'un côté et la présence, le rayonnement de l'autre. Et dans ce sens-là, peut-être ça amenait à surévaluer l'importance que ça a vraiment à l'étranger, mais ça, c'est quelque chose de difficile à quantifier, puis on en discutera certainement. Donc oui, c'est spécial, mais c'est spécial de toutes sortes de manières qui lui sont très personnelles et qui sont parfois glorieuses et parfois franchement agaçantes. Donc c'est difficile d'en discuter sereinement parce que ça vient nous chercher très profondément, puis c'est un cinéma quelque part qui se cherche toujours, puis mm-hmm. qui est quelque part aussi en rupture par rapport à ce qui s'est passé avant, qui n'est pas toujours conscient de son histoire. C'est un drôle de cinéma, c'est une drôle de bébête, je pense, le cinéma québécois.
Dans comme ce qu'il le a de brillant.
Oui, oui, tout à fait. Dans ce qu'il a de brillant, puis dans ce qu'il a d'agaçant. Donc, mais oui, ça le rend spécial, ne serait-ce qu'à nos yeux.
Mm-hmm. Philippe?
Oui, ben, au cinéma national, cinéma avec lequel on a un rapport particulier parce qu'on est québécois, forcément. Alors, gris, lamentard, suicidaire, il faut regarder qui le dit. C'est ça qui est très intéressant, parce que moi j'ai envie de dire, peut-on reprocher un cinéma d'être de son temps? Je veux dire, un cinéma national, et je crois que le cinéma québécois, au moins, a un cinéma national, effectivement on pourrait peut-être pas dire ça de toutes les contrées, et ainsi de suite, est vraiment collé à ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. On retrouve les thèmes du Québec d'aujourd'hui, la question identitaire, les questions de filiation, les questions... d'être un peu isolé au milieu de la question de l'ouverture à l'autre. Toutes ces questions-là habitent notre cinéma, mais habitent notre société. Donc pour moi, en fait, ça serait plutôt positif, positif qu'un cinéma national s'intéresse à sa société. Et ça, c'est un caractère, je crois, qu'on ne peut pas nier. Ensuite, j'ai envie de dire, mais de quel cinéma parle-t-on? C'est-à-dire qu'on va parler du cinéma qui sort en salle, qui plus ou moins se superpose à un cinéma qu'on voit en festival. Pour le Québec, c'est pas vrai pour tous les autres pays. Je veux dire, certains pays basent énormément de leur stratégie sur les comédies, et les comédies sont le genre qu'on voit le moins en festival, par exemple. Bon, nous, notre cinéma d'auteur est celui qu'on aimerait voir mieux perçu dans les salles commerciales, mmh. et qui, effectivement, voyage plus. Et effectivement, alors là, en termes de statistiques, si on rapporte au nombre qu'on est, c'est énorme, c'est gigantesque. Bien, mais est-ce que ce cinéma de festival devrait être le cinéma des salles? C'est Gouzeau qui a beaucoup, en tout cas, à qui on a beaucoup fait porter ces là.
Et moi, et Hugo Dumas.
J'ai envie de défendre Gouzeau.
C'est spécial.
Parce que ce qu'il disait, au définitif, était tout à fait vrai. Mais de son point de vue, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, Gouzeau? Il reprend un modèle qui est le modèle des années 80 aux États-Unis, le modèle des multiplexes, et le modèle des multiplexes inverse la proposition. C'est-à-dire que la finalité n'est plus d'aller voir un film, la finalité, c'est d'être dans le complexe et de consommer, et le film n'est plus qu'un produit d'appel. Mm-hmm. Est-ce que nos films, ceux justement qui performent en festival, sont des produits d'appel? Ben non. Donc effectivement, il a raison. Je veux dire, on ne va pas comparer James Bond à un film de Raphaël Ouellette, quoi. Je veux dire, ça ne marche pas, ça ne joue pas le même rôle dans son rapport au public. Mais est-ce que c'est un problème? C'est un problème, oui, si on se limite à cette idée du cinéma en salle commerciale. Alors moi, ça m'amène à un débat qui est beaucoup plus vaste, qui est, ceci dit, extrêmement actuel. C'est, est-ce que les salles aujourd'hui sont faites pour accueillir ce cinéma-là, sur le modèle qu'on connaît, mm-hmm. c'est-à-dire le modèle d'une sortie sur... X écrans, 4 séances par jour, pendant au maximum une semaine pour, je veux dire, 50% des films, ouais, peut-être 70%, et ainsi de suite. Mais non, je crois que justement, ces films de festival ne sont pas forcément faits pour être exploités de cette manière-là.
Ah, mais ça, c'est, il me semble que Raphaël Ouellette aurait peut-être envie de réagir là-dessus, parce que mais tes films font partie de ce qu'on appelle les fameux films de festival, même si c'est une distinction dont on pourrait parler assez longtemps. J'imagine que pour un cinéaste, la finalité est plus d'attirer des gens en salle plutôt que d'aller en festival avec un film. Ou je me trompe?
Ah ben, si on parle pour moi, oui, mais on ne pourrait pas dire ça de tous les cinéastes. C'est certain qu'on veut rencontrer le public. Moi, je sais que j'ai rencontré probablement jamais un public très, très, très large, ce qu'on appellerait un box-office. Par contre, j'ai envie de rencontrer le plus grand, le plus vaste public possible. Et à ça, il n'y a pas que des Québécois. T'sais. Pour moi, d'aller présenter mon film dans un festival en Allemagne, même si c'est un tout petit, je ne parle pas de Berlin, ça compte. À Mannheim, il y a 1200 personnes qui ont vu le 7 penché, ce qui est plus que les gens qui ont vu le 7 penché en salle au Québec. Ça compte quand même. Les gens, il y a un rapport humain, il y a une vraie rencontre artistique qui se produit, tout ça. Donc ça, c'est assez important. Je pense que si on dit que le cinéma québécois est gris, lamentable, dépressif, tout ça, je pense qu'il y a un problème dans l'équilibre. Il y a beaucoup trop de cinéma de ce genre-là qui est fait. Il y a le droit, ce cinéma-là, d'exister, mais le ratio est très grand et ça revient un peu à ce que tu disais, Georges, tout à l'heure. Est-ce qu'il faut se vouvoyer?
Sur le podcast de 24 images, on se tutoie.
Mais on s'en revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au financement où on recherche peut-être des perles pour les festivals. À force, et là, on a l'impression que les festivals ne demandent que ça, mais en festival, il existe autre chose aussi. Il existe Roy Anderson en festival. Il existe des comédies, même si ce n'est pas des comédies poète-poète qui vont aller, Lapa ou Bienvenue chez les Ch'tis ou peu importe. On n'est pas là-dedans, mais il y a des choses plus sordides, plus singulières. On n'est pas toujours dans l'autoflagellation. Et ça, on en surproduit, j'ai l'impression, ici. En tout cas, ils ont beaucoup de visibilité. La critique s'y intéresse. Les défunts Jutras s'y intéressent. Alors, c'est ces films-là, on a l'impression que c'est ces films-là qui sont ambassadeurs de notre cinéma. Et on ne peut pas faire autrement qu'arriver à ce constat-là, même si c'est complètement bête et un peu superficiel de le dire. On n'a pas le choix d'arriver là. Cette année, si on regarde des films qui ont été mis en nomination au prix des écrans québécois, ou je ne sais pas,
le gala.
Il y avait quelque chose quand même beaucoup. Le suicide était là, la violence conjugale. Il y avait un paquet de trucs assez déprimants, c'est vrai. Et moi, je veux dire, je rejoins un peu Gouzeau par moment. Je rejoins aussi un peu Hugo Dumas par moment. Tous ces films-là ont le droit d'exister. Ce n'est pas grave qu'ils constituent notre cinématographie nationale. Le problème, c'est qu'on aimait peut-être trop d'avant, et là, le public se sent largué. Ils ont l'impression que c'est pas pour eux, que si eux ont eu le malheur de s'intéresser au mirage, on est en train de les juger, nous, les cinéphiles, nous, les cinéastes, vous, la critique. Alors, et c'est là que se crée là, l'espèce de déchirement là, chez le public.
Puis je pense aussi, pour poursuivre sur ce que dit Raphaël, une des raisons pour lesquelles les propos de Guzeau ont eu de l'attraction ont quand même eu un poids, même s'ils étaient formulés de manière absurde. Et pour finir sur Guzeau, moi, je reproche beaucoup plus aux gens d'aller lui demander son opinion, lui la donne. Mais qu'on se soit retourné systématiquement vers Vincent Guzeau pour avoir l'heure juste sur notre cinéma, c'est une grande aberration.
C'est notre jour de la marmotte à nous.
Le fait est que je pense qu'il a donné une certaine traction à ses propos. C'est qu'il y a eu effectivement une vague de films désaturé, dédramatisé, dans une déflation dramative extrême et recherchée, soigneusement recherchée, qui faisait plus que refléter, je pense, le malaise ambiant ou les problèmes ambiants, et qui avait un air de parenté, pour pas dire de mimétisme, assez puissant.
C'est ça. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous sentez que c'est une formule que l'on reproduit peut-être justement pour aller chercher un succès de festival international? Ou c'est un reflet de la société dans laquelle on vit?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience. C'est-à-dire qu'un film qui va, pour en parler avec des créateurs, un film qui va séduire à un moment donné, effectivement, va faire des petits. Et ça, ce n'est pas un problème. Je crois que c'est Denis Coté qui me disait qu'il avait été sur un jury à la SODEC et il était frappé du fait que sur 10 films, il y avait 9 qui étaient une proposition qui découlait du film de l'heure à ce moment-là. Bon, ben voilà, je veux dire. Après, moi, je voudrais réagir à ce que dit Raphaël, parce que, Guzeau, pour moi, en fait, ou à Georges, Guzeau, c'est pas tant qu'on lui demande ou on lui demande pas son avis, moi, je trouve qu'on s'en est servi. On s'en est servi d'une manière un petit peu étrange, c'est-à-dire que ce cinéma qui nous intéresse, moi, je prétends pas m'intéresser à tous les cinémas, je prétends être une voix pour défendre un certain cinéma. Bon, je pourrais le définir, mais c'est peut-être pas l'objectif, là. Et je veux dire, ce cinéma-là, encore une fois, est mal défendu. Et ce n'est pas tant parce qu'il y a un certain nombre de critiques qui, elles-mêmes, ne sont pas plus lues que les films ne sont vus, qui vont changer quoi que ce soit à ça. C'est-à-dire que ces films-là ne sont plus vus de la bonne façon. Moi, je fais partie des gens qui disent effectivement qu'il faut voir les films en salle. Mm-hmm. Et en plus, c'est très personnel, bien sûr. Mais pas en sortie commerciale. Mm-hmm.
Mais c'est-à-dire, alors, ce serait quoi une solution, par exemple?
Il y a des solutions qu'on connaît, qui est, par exemple, en fait, bon, Je me rappelle Damien Deschéberry, qui est distributeur, qui me disait, en France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé toute une série de salles qui prennent, mettons, 30 films d'un coup et qui vont les projeter sur 3 mois, 4 mois, et ainsi de suite. Donc, c'est sur ce vieux mode où il y a une séance de temps en temps, et ainsi de suite. Donc, le lieu devient, en fait, ce lieu où on va découvrir des choses, et puis il y aura toujours quelque chose à découvrir.
Personne ne veut faire ça ici.
Personne ne veut faire ça ici.
Juste de l'autre côté de la rivière Outaouais, il y a un cinéma qui le fait à Ottawa. Il y a un cinéma qui, un peu comme le Duparc nous a déjà offert, il y a une programmation un peu comme ça qui est modulable. Puis,
la Cinémathèque qui essaye de se rentrer dans ce modèle-là tranquillement aussi. Oui, ouais.
Effectivement. Et ça, pour moi, ça donnerait peut-être un peu plus de temps, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut aller aussi avec toutes les récriminations qui vont avec. Genre, les films ne restent pas à l'affiche. Les films sont morts le premier week-end. Les films, je veux dire, on parle de films qui sont effectivement relativement fragiles en termes de box-office, mais tous les films sont fragiles en termes de box-office. Je dirais, James Bond, s'il ne fait pas ce qu'il faut le premier week-end, il dégage. Donc, il y a une sorte de loi de la jungle impitoyable qui ne correspond plus du tout à ce cinéma dont on parle. Et ce cinéma dont on parle, pour moi, n'est tout simplement pas adapté à ça. Donc, d'un côté, on a un cinéma qui... Je voudrais revenir sur cette notion de... Tu introduis presque une notion de quota, c'est-à-dire qu'il y a trop de films, mettons Gris Lamantard et ainsi de suite, au détriment. Mais toi qui es créateur, je veux dire, tu ne vas pas rentrer dans un quota, tu ne vas pas te dire, tiens, il y a déjà eu assez de films comme ça, moi je vais faire un film d'un autre genre, puisque tu fais le film que tu as envie de faire.
Mais ce n'est pas mon travail, ça. Moi, je vais faire... C'est ça. Mais il existe quand même Le Vendeur, Camion, Le Mécanicien, On attend avec impatience Le Pompier. Quand même, à un moment donné, ce travail-là, on est quand même dans un système subventionné. Tu comprends? Et c'est eux qui définissent notre cinéma national d'une certaine façon. En tout cas, ils y contribuent.
Oui.
Et si sur 35 films par année...
D'une façon absolue, même.
Puis après ça, on peut rajouter CV là-dedans, puis paquet de monde. Mais si sur 35 films, on décide qu'il y en a 25 à qui on va donner 1,5, 2,2 millions pour essayer de se placer à Cannes ou à Venise, bien, on va se retrouver avec 25... Il y a un débalancement qui est total. Moi, je questionne ça encore plus profondément. On devrait peut-être en faire moins, même, des films.
Moi, c'est ça la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'on fait trop de films par rapport au bassin cinéphile qui existe au Québec?
Les films visés, les fameux films de festival, sont vraiment pas les films les plus chers produits au Québec. D'accord, en moyenne. Hein. Oui. Je ne parle pas des films de Xavier Dolan, qui, eux, effectivement, aujourd'hui, bénéficient de budgets beaucoup plus conséquents, mais tes films ne sont franchement pas des films très chers, premièrement. Deuxièmement, il y a une tentative, effectivement... Et je ne sais pas où elle va nous mener, mais par exemple, Téléfilm Canada a créé la notion de micro-budget, et il y a des films qui vont se faire avec ces micro-budgets. Personnellement, j'en ai déjà vu un que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, les créateurs, vous allez forcément adapter, en tout cas, j'ai le sentiment, vous allez adapter vos ambitions, les formes de vos films à ce que vous pouvez prétendre comme budget. Donc, oui... Les institutions ont une mainmise absolue sur ce qui va se faire, mais les créateurs vont répondre d'une certaine manière, à leur façon, à ces prérogatives-là.
Moi, je pense que les créateurs vont continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans les institutions, effectivement, il devrait y avoir, puisqu'ils ont une vue d'ensemble, le sentiment de dire, OK, il y a vraiment des films qui se ressemblent dangereusement et qui n'ont pas de point de vue singulier, parce que c'est bien beau défendre le cinéma d'auteur et je le défends autant que n'importe qui, mais ce que tu cherches dans un film d'auteur, c'est une personnalité. Et plusieurs de ces films-là n'en affichaient pas beaucoup. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Si on aime le cinéma d'auteur, moi, ce que je reconnais, c'est une vision singulière, une signature, une personnalité. Et dans certains cas, tu retrouves l'éthique du cinéma d'auteur, mais tu ne retrouves pas la personnalité qui devrait aller avec. Et ça, c'est un autre problème aussi, il ne faut pas se leurrer. Et ces films-là, on les voit, ils ont droit à l'espèce de critique polie, le standard qui accompagne ce genre de sortie-là.
Le fameux 3 étoiles.
C'est ça, ils ont droit à une sortie, symbolique et tout ça. Et après ça, effectivement, il y a un effet de cumul qui donne l'impression que, mon Dieu, les films se ressemblent. Je pense que c'est à ça. Les créateurs, je pense, n'ont pas grand-chose à changer. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est peut-être aux gens qui donnent le OK dans les institutions de poser des questions sur l'authenticité de ces démarches-là, qui, dans certains cas, ne font aucun doute, mais dans d'autres, la question se pose. Puis moi, je pense aussi que, oui, le cinéma, il voyage, la présence en festival, mais il y a cet effet pernicieux dont je parlais au début, de dire... que ça amène les institutions à coter très fort la présence en festival, alors que dans un certain cas, on sait tous, et c'est pas un complot, c'est juste la nature des choses, qu'il y a des relations qui se nouent entre certains festivals et certains créateurs, qui font qu'à un moment donné, c'est pas une surprise si Microscope ou Metafilm se retrouve à Locarno, si Denis Côté se retrouve à Berlin, si Xavier Dolan s'en va à Cannes. La surprise, ce serait qu'il n'y aille pas. C'est devenu tout à fait attendu. Donc... C'est très bien qu'un film aille en festival, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de créateurs marquants. On parlait avant de commencer ce podcast de Robert Morin. C'est quelqu'un qui, à l'international, est une non-entité.
Mais parce qu'il le refuse aussi, c'est lui-même.
Il ne poursuit pas ça. Il a compris que c'est une job aussi. Tu sais, c'est quand même du travail, il faut cultiver ça. Visiblement, il a préféré suivre sa carrière de créateur. Est-ce que ça fait de lui un créateur moins intéressant, moins pertinent, qui mériterait moins d'être encouragé parce qu'il n'est pas présent sur la scène internationale? Bien sûr que non. Donc, je pense que tout ça est quand même à relativiser, à moduler. C'est important, oui, mais avec des bémols, moi, je dirais.
Ouais, Raphaël?
Bien, pour répondre un peu à Philippe, parce que, par rapport au quota dont je parlais, c'est qu'il y a un cinéma qui se retrouve orphelin là-dedans. Prenons par exemple, parce qu'on a commandé l'écriture de Menot Maître Draveur, adaptation pour le cinéma. Ce type de cinéma-là, de terroir, là, revisiter nos classiques, on ne peut pas espérer à peu près rien pour ces films-là en festival. Ils sont condamnés à vivre ici au Québec, ou à peu près. Et là, donc, c'est pas un festival. Donc, c'est quoi? C'est un gros box-office. Mais c'est pourquoi on n'a pas encore vu un film? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film tiré de ces œuvres-là, qui avait une vraie proposition singulière, forte, un vrai cinéma fort. Il faut remonter, je pense, à J.A. Martin, photographe, ou à peu près, qui n'était pas normal. Donc, ça laisse un espèce de trou. Tu comprends? C'est pour ça, moi, c'est là que j'en viens au quota. Alors, il faudrait avoir... Si on filtre, puis on enlève les propositions d'auteurs qui n'en sont pas vraiment, si on enlève ce cinéma-là qui fait du mimétisme, qu'on les tasse, ça dégage tout à coup de l'argent pour ce que... c'est pas la bonne expression, mais pour les films du milieu, pour un certain cinéma en deux chaises, un cinéma qui va être pour nous, ici, pour le Québec, qui va pas nécessairement être appelé à voyager, qui va parler de nous sans nous prendre pour des épais puis faire l'appât. Je dis l'appât, vous remplacez l'appât par celui que vous voulez, mais je vais prendre lui parce que je pense qu'on a le droit de le dire. Je pourrais dire un dog aussi, je vais m'arrêter avec ces deux-là. Mais on n'est pas obligé de produire ça d'un bar, puis tu dors Nicole de l'autre. Je pense qu'il y a tout un terrain au milieu qui est à cultiver.
Et qui n'existe pas réellement en ce moment.
Ben, pas de cinéma de genre ou à peu près.
Il n'existe pas parce qu'on est dans un cinéma très binaire. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très déprimant. C'est comme il y a le cinéma d'auteur d'un côté, il y a le cinéma grand public de l'autre. Et l'idée qui est partout dans le monde, il y a des cinéastes qui sont des cinéastes, qui sont des auteurs, mais qui font aussi des films, qui sont des films de genre. On dirait qu'ici, c'est une aberration. On ne peut pas concevoir ça. Je trouve que ça trahit aussi quelque chose de profondément déprimant dans la pensée québécoise, à tous les niveaux, dans la profession, chez les critiques, surtout, c'est consternant, dans les institutions, cette impossibilité de ce cinéma-là d'exister, son inexistence au Québec, est troublante. Il y a très, 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 très peu de films qui pourraient faire ce pont-là, qui se fait naturellement dans tous les cinémas du monde.
Nos institutions ne sont pas capables de décoder ces scénarios-là sur papier. Les comédies romantiques ne sont pas capables de les trouver, ne sont pas capables de bien lire un film d'horreur, ne sont pas capables de bien lire un drame, un thriller, tu sais. Alors, on se retrouve avec deux formules, la comédie poète-poète et le cinéma.
Mais Georges, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que, cette série sur le cinéma québécois, tu as fait étudier en long, en large et en travers notre cinéma à travers un prisme plus historique. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Pourquoi?
Je pense que c'est quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'un film comme, mettons, Gina, qui était à la fois un film d'auteur et un film de genre et un film social qui jetait un regard sur la société québécoise, mais qui avait des éléments de films d'action assez costauds pour l'époque, avec les moyens du bord, qui étaient, je pense, 350 000 ou quelque chose comme ça. Ça, aujourd'hui, c'est une créature qui a complètement disparu. Le film qui est l'équivalent de ça aujourd'hui n'existe pas. Et quand on fait quelque chose qui, à mon avis, est un film d'auteur et qui est aussi un film de genre, je pense récemment, bon, à l'exemple, on peut questionner de la réussite. Moi, j'ai plutôt aimé Bunker de Patrick Boivin. Là, on sent le schisme dans la critique. Il ne sait pas trop quoi faire de cette affaire-là. C'est-tu un film d'auteur? C'est-tu un film de genre? On sent une confusion. C'est comme tout d'un coup, les gens se mettraient à voir un dragon ou quelque chose. Ils ne comprennent pas. Et je trouve ça profondément déprimant parce que moi, tous les cinéastes que j'aime, c'est des gens qui... T'sais, personne ne se demande si Scorsese est un auteur et si c'est moins un auteur, s'il fait, je sais pas, Shutter Island. C'est absurde. Mais ici... Il y a cette incapacité de réconcilier les deux qui est assez fondamentale. Et historiquement, il y a eu des tentatives dans le genre... quand Raphaël parle de films du terroir m'habités par un regard d'auteur, moi, je pense spontanément à Maria Chapdelaine de Gilles Carle. Il n'y a personne qui a dit « c'est un film de producteur ». Les gens disent « c'est un film de Gilles Carle ». Ces affaires-là ont comme disparu. Et je pense que ça n'enrichit pas le cinéma, leur disparition, le cinéma québécois, parce qu'il y avait quelque chose là... Je pense qu'un cinéma, ici, l'année mythique qui reste, c'est 2003, parce qu'il y avait eu la grande séduction, les invasions barbares, Gaspar Blues. Bref, un cinéma qui fonctionnait sur à peu près tous les niveaux. Bon, c'était peut-être utopique, mais une cinématographie saine qui n'a pas besoin de mesures palliatives constantes, c'est ça. Mm-hmm. Alors, moi, je pense qu'on peut peut-être retrouver ça à un moment donné. Ça va prendre beaucoup d'efforts dans la construction d'un nouveau parc de salles, puis même, moi, je dirais, dans l'apprentissage du cinéma.
Ah oui, ça, c'est une autre question.
Ça, c'est un autre volet, mm-hmm. parce qu'il y a toute une génération, si ce n'est pas plusieurs générations, à qui il faut redonner le goût de ce cinéma. Et à qui on fait tout pour leur enlever le goût de ce cinéma-là. Hein? Ça, on peut s'attarder là-dessus aussi à un moment donné. Mais il faut recommencer de la base, parce qu'en ce moment, c'est comme essayer de planter quelque chose dans du béton.
C'est comme si tout s'était écroulé et que là, en ce moment, on ne savait plus très bien comment replacer les cubes pour que tout ça refonctionne. Philippe, je te sentais t'agiter.
Oui, parce que, une chose est sûre, c'est que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté pour moi, cinéma d'auteur, cinéma commercial, cinéma de genre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie entre ça. Moi, je préfère, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, Georges, c'est-à-dire, on veut des films avec une personnalité. Mmh. On veut des films qui vont nous surprendre. Et là, je ne parle pas comme critique, là, je parle comme spectateur. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme la télé, hein, je veux dire, la télé, quand on nous répond, hein, mais pourquoi vous ne faites pas des émissions plus originales et que les patrons des télés répondent, mais parce que c'est ce que les gens veulent. J'ai envie de hurler au meurtre, quoi, parce que c'est pas vrai. Les gens, ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'être surpris, c'est d'être charmé, c'est d'être bougé, en fait, d'une certaine manière. Donc, on utilise des catégories qui ont bien vieilli, commerciales, alors que commercial, pour moi, ce n'est pas une forme, c'est un modèle d'exploitation. Auteur, bah, auteur, ça veut dire quoi aujourd'hui? Je veux dire, c'est très vieux, c'est vieux comme le monde. Oh. Et j'ai l'impression, de plus en plus, et ça, je reviens vers ta nouvelle question, qu'on a vieilli. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles qui datent des années 80. Mm-hmm. Mais des modèles à tout niveau, dans notre manière de regarder les films. Auteur, commercial, machin. Dans notre manière d'exploiter les films. C'est né dans les années 80, ça n'a pas vu venir la révolution numérique, ça n'a pas bougé d'un iota depuis la révolution numérique. Dans notre manière de voir des films en dehors des salles. Pourtant, Dieu sait ça a pris une place majeure dans notre paysage. Que ce soit bien ou non, ce n'est même pas la question. C'est là. Donc, à un moment donné, est-ce que... Et alors, du coup, nos institutions, effectivement, sont dépendantes de ça. C'est que leur modèle aussi date des années 80. Ils n'ont pas bougé. Je veux dire, ils ont empiré. En 99, avec les enveloppes à la performance, on n'a fait qu'accentuer ça. Et quelque part, en fait, c'était une fuite en avant. Je veux dire, parce qu'on ne savait plus comment faire. Et c'est le début 99. Hein. C'est le moment où les Boys, en fait, devient en quelque sorte le premier blockbuster de l'histoire du cinéma québécois. Et tout d'un coup, on dit, ouais, là, on a une opportunité. Mais cette opportunité n'a rien donné. Donc, je ne pense pas que les institutions ne veulent pas qu'on fasse des blockbusters. C'est que pour l'instant, force est d'avouer qu'il y a plus de blockbusters, en tout cas, qu'on attend, qui se plantent la gueule, tout simplement, donc qui ne correspondent pas à ce que les Américains savent si bien faire, c'est-à-dire un cinéma bien enrobé par une promotion extraordinaire qui va rencontrer son public au moins un week-end, je veux dire. Alors que nous, ben voilà, je veux dire, oui, on veut faire, apparemment, nos institutions veulent beaucoup de blockbusters, mais ces blockbusters ne sont pas au rendez-vous, encore peut-être moins que ce qu'on appelle, hélas, le cinéma d'auteur. Et j'en ai marre, effectivement, de cette appellation. Moi, quand je dis cinéma de festival, je le dis de façon positive. Quand je dis cinéma commercial, je le dis de façon positive. Loin de moi l'idée de nier qu'un cinéma va rencontrer son public. Au contraire, je suis ravi, hein, je veux dire.
Si on s'intéresse juste au Québec, je pense que le cinéma d'auteur, c'est pour désigner le cinéma dans lequel la SODEC et Téléfilm investissent à perte. Ils le savent qu'on ne sera pas rentable et espèrent un retour critique et un succès en festival, c'est tout.
Et l'identité.
Il y a des box-office qui sont des films d'auteur, je veux dire. Quand le réalisateur écrit son propre film, s'il y a moindrement une signature, s'il va chercher 5 millions de box-office, c'est un film d'auteur. C'est un film d'auteur et
par exemple, Le Mirage, vous considérez ça comme un film d'auteur, un film commercial? Qu'est-ce que c'est que
ça? Ça aurait pu être un film d'auteur si Ricardo, pour moi, je ne veux pas me mettre à dos, j'aime beaucoup, mais il avait mis sa signature un peu plus de l'avant. Uh-huh. Je sens pas beaucoup le Ricardo que j'ai connu à travers ses autres films dans ce film-là. Mais ça aurait très bien pu être un film d'auteur si ça l'était plus approprié. On sent quand même une collaboration de proximité avec le scénariste qui est le personnage principal. Donc, ça devient une espèce de...
Et qui est producteur aussi, coproducteur.
Oui, exactement. Ouais, ça devient pas une commande, mais ça devient une collaboration. Il y a quelque chose... J'aurais aimé sentir Ricardo plus proche et je serais prêt à lui donner le statut de film d'auteur, tu sais, absolument.
Mm-hmm. Puis c'est un film qui, ouais. c'est un film qui a réussi à rejoindre le public, qui effectivement a désarçonné un petit peu toute l'industrie l'année dernière.
Pour moi, Trudgy, c'est un auteur. Mais effectivement, on sent que sa signature est un peu plus éloignée dans le Mirage parce qu'il est essentiellement en collaboration avec une vedette qui est scénariste, qui est producteur et qui a des opinions très affirmées aussi. Donc, on sent qu'il collabore, mais pour moi, c'est un auteur. Je trouve ça plate que Catherine Martin, ce soit automatiquement une auteure et que lui, s'en soit pas.
Exactement, ça, c'est certain.
Ça, je trouve qu'on est dans... C'est ça, c'est la pensée binaire qui domine tout notre cinéma.
Mais d'autant plus qu'on se tire dans le pied. On se tire dans le pied.
Oui, absolument.
Je veux dire, parce qu'effectivement, si on associe auteur à égal chiant... Ben, c'est sûr qu'on va avoir un petit problème.
Ben, c'est devenu galvaudé, c'est certain.
C'est totalement galvaudé, je veux dire. Je veux dire, tous, on veut un cinéma, mais tous, on veut un cinéma singulier. D'accord ? Que ce soit, je veux dire encore une fois, que ce soit exploité commercialement ou non, on recherche un cinéma singulier. Et puis après, bon, évidemment, à chacun d'entre nous, à chacun des spectateurs, de considérer ce qui est plus singulier pour nous. Moi, mon problème est que ce soit dans le cinéma commercial ou le cinéma dit d'auteur ou dit commercial ou dit de genre... c'est que ce cinéma parfois pêche par originalité, ça on l'a déjà dit, mais surtout pêche par simplisme. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une sorte de défiance envers la capacité du spectateur à décoder beaucoup plus largement. Donc beaucoup de cinéma, et notamment de cinéma qu'on considère comme pouvant performer au box-office, est un cinéma caricatural, bourré de clichés, et ainsi de suite. Et ça, ça nous fait beaucoup plus mal.
En fait, ce qui fait mal, puis ça, c'est très personnel, bon, peut-être que les autres n'auront pas la même opinion que moi, mais moi, ce que je trouve très plate en ce moment dans le cinéma québécois, c'est qu'il déçoit sur les deux fronts.
D'auteur et commercial pour garder les catégories...
C'est ça, pour garder ces catégories maudites. Il n'y a pas de grands émerveillements et de grandes surprises. Il y a des trucs occasionnellement, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Endorphine, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est du cinéma. Et j'ai aimé Le Mirage, qui est pour moi un bon film grand public. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les films d'auteur et les films dits commerciaux en ce moment au Québec sont un peu décevants. Ceci dit, ce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, c'est d'inscrire cette crise du cinéma québécois qui est incontestable dans le contexte d'une crise du cinéma mondial.
Oui, tout à fait.
Parce qu'effectivement, si on parle d'un cinéma personnel, qu'on l'appelle d'auteur ou autre, mais d'un cinéma personnel, il est en difficulté partout. Il est en difficulté ailleurs et sur nos écrans aussi. Donc, le cinéma québécois représente une sous-catégorie de ce cinéma presque étranger maintenant au Québec. Et ça, c'est assez fréquent. Alors, avec la fermeture d'Excentrisme, bon, on a vu d'un seul coup à quel point c'était la terre brûlée. Puis, encore une fois, si on retourne à l'éducation, à la formation de spectateurs, il y a tout un travail que la télévision ne fait pas, ne fait plus. Je veux dire, moi, personnellement, quand je vois TVA qui programme des films québécois seulement à 9h le matin, les samedis en été ou quelque chose comme ça, ou le soir de la Saint-Jean-Baptiste, je trouve ça hallucinant.
Je ne me souviens pas d'avoir vu un film québécois à TVA.
Il y en a, mais ils sont vraiment enfouis dans ces créneaux-là.
Radio-Canada, je sais qu'ils les placent très tard le soir.
Très tard la nuit.
Non, il y en a juste assez pour remplir leur quota, j'imagine, à TVA, mais c'est triste de penser que des gens qui rejoignent un public aussi vaste, qui appartient à l'Empire québécois, ce qui n'est quand même pas un détail dans le contexte, présente si peu de films québécois. Moi, je trouve ça profondément déprimant. Alors, c'est sûr que si tu passes le pire film de série pour ados américains le soir, plutôt que de passer un film québécois, comme si tu avais peur de ne pas faire ton 1 800 000 de spectateurs, faut pas s'étonner que les gens n'aient pas envie d'en voir non plus à un moment donné. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien.
Mais alors, paradoxalement, on a effectivement ce problème de formation, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas appris dans les écoles, on n'a pas d'accompagnement critique. Par exemple, à Radio-Canada, il n'y a pas d'émission consacrée au cinéma, ce qui semble une aberration quand même. Et en même temps, on a l'impression que de plus en plus de jeunes gens veulent devenir réalisateurs et faire leurs films, que ça se bouscule un peu au portillon pour faire un film. Comment est-ce qu'on explique cette espèce d'intérêt? C'est quoi? C'est le prestige? C'est l'envie d'aller faire, je ne sais pas, d'aller se montrer sur les tapis rouges de festivals? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette envie qu'on sent assez constante des plus jeunes de faire des films et en même temps ce désintérêt presque chronique de la population générale pour le cinéma? De façon générale.
Je pense que les gens... Bon, on pourrait toujours dire ce truc-là, l'attrait des tapis rouges et des prix du prestige, mais je pense que, bon, il y a beaucoup de personnes, vous en faites partie, qui ont envie de raconter des histoires. Bon, puis le cinéma, c'en est une façon de le faire. Ça va continuer de parler aux gens, ça, toujours. Et ici, on est dans un contexte assez facile, je veux dire. C'est subventionné, on n'a pas à aller quêter aux banques, puis à nos oncles, puis à mettre notre... je dirais pas notre hypothèque, parce que souvent, on n'en a pas, mais notre tête sur la bûche, puis tout perdre, tu sais, comme dans d'autres pays dans le monde, ou presque tous les pays dans le monde. Donc, c'est assez facile d'y rêver, c'est assez facile d'y accéder aussi, tu sais. Mm-hmm. Donc, pour un, c'est peut-être pas étranger, je veux dire, à chaque année, il se dépose 10 projets supplémentaires.
C'est vrai.
On passe de 30 à 40 à 60 à 100 projets de long métrage. Tout le monde écrit un film et ou une télésérie présentement. dans le système dans lequel on vit, c'est facile d'y rêver. On n'a pas besoin d'être des grands, grands, grands rêveurs et des têtes très, très dures pour rêver à ça. Après, bon, il y a les plus perspicaces, les plus talentueux ou en tout cas les plus rusés qui vont arriver à percer. Mais... Donc, je pense pas que ça ait un lien un avec l'autre. Il va toujours rester des gens pour s'intéresser au cinéma. Il va toujours rester des ados qui vont rêver de devenir le prochain Spielberg. Puis en vieillissant, ils vont découvrir autre chose. Puis ils vont se mettre à copier Gus Van Sant. Ça va toujours exister, ça.
Puis encore une fois, il y a eu la révolution numérique. C'est-à-dire, alors, effectivement,
oui,
le cinéma
absolument,
n'a jamais été aussi accessible. Je veux dire, à la fois comme spectateur, mais aussi comme créateur, je veux dire. Et puis, il faut accepter que le cinéma, en fait, se redéfinisse tous les jours, tous les ans, toutes les années. Et ça, je veux dire, est-ce qu'on fait du cinéma pour YouTube? Est-ce qu'on fait du cinéma pour les salles? Est-ce qu'on fait du cinéma pour la télé? Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de possibilités.
Et
les plus jeunes, pour séduire les filles, bien entendu.
C'est beaucoup plus facile qu'apprendre
à jouer de guitare. Les jeunes n'ont jamais été autant. Alors, par rapport à moi, évidemment, je veux dire, je serais content, quoi. Je veux dire, les jeunes n'ont jamais eu autant accès à l'image en mouvement. Mm-hmm. L'image en mouvement est partout, elle nous sature. Donc j'imagine qu'une partie du désir d'en faire vient de ça, parce que tu nais dans un environnement naturel comme ça. Je veux dire, dans les années 60, je veux dire, faire du cinéma, c'était miraculeux, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière.
Non, mais l'apprentissage aussi était compliqué, c'était difficile. Il y avait beaucoup de choses à maîtriser.
L'apprentissage
aujourd'hui,
du goût était unique. Aujourd'hui. Je veux dire, c'était l'université ou la cinémathèque à moins de 200 km de chez toi qui la faisait.
Quand Chabrol dit que apprendre à faire un film, ça prend, c'était-tu une heure ou une journée? En tout cas, c'était très peu de temps. Il ne sait pas à quel point il avait raison, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai. N'importe qui peut s'improviser cinéaste. Tu trouves un bon directeur photo, une bonne caméra et hop, c'est joué, là, tu sais. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que combien de courts-métrages se tournent au Québec par année?
Beaucoup.
Plus que 1000, probablement.
Et la qualité technique des courts-métrages qui se tournent chaque année est bien supérieure à celle qui se tournait il y a 20 ans.
Mais oui, absolument.
Mais hallucinant, quoi, je veux dire. C'est...
Mais les courts-métrages...
Évidemment,
qui sont...
vu le nombre, l'originalité n'est pas distribuée de façon égale. Ça, c'est possible. Mais alors, par contre, je veux dire, les gens sont nés dans l'image et ça se voit. Ils savent tous cadrer, ils savent tous éclairer,
alors,
ils savent tous...
J'ai envie de vous entendre.
Oui, mais avec la technique d'aujourd'hui, en 2016, déjà, les films, les courts-métrages, même les plus fauchés, ont des plus grandes qualités techniques que les États nordiques, par exemple.
Bien sûr.
On recule juste d'il y a quoi, 13 ans?
13 ans, oui. Mais j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que c'est un des clichés qu'on entend assez régulièrement, c'est que le cinéma québécois est très doué techniquement. On forme des stylistes exceptionnels, la preuve étant que Hollywood vient chercher nos cinéastes parce qu'ils savent réaliser, ils savent mettre en scène, mais on aurait, selon ce fameux cliché, un véritable problème avec les scénarios. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est un problème que vous sentez réel dans notre cinématographie?
Ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Georges tout à l'heure. Je veux dire, moi je ne suis pas déçu par le cinéma québécois. Je veux dire, moi, il ne me désespère pas. Je veux dire, chaque année, il y a 5 films qui vont m'allumer, après que j'adore ou non, et je ne vais pas... Mais enfin, je veux dire, heureusement qu'on n'a pas 5 chefs-d'œuvre par année au Québec, ça se saurait, quoi, quelque part. Je veux dire, combien... En France, on va trouver de films qui véritablement vont nous mettre par terre par année. Ils sont même 10 fois plus nombreux. Je veux dire, ils ont 10 fois plus de moyens aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, un Endorphine et un Démon, qui tous les deux, quelque part, en fait, déjà nous sortent de cette idée du cinéma réaliste et ainsi de suite, donc on a appelé Green, alors que tout d'un coup, les deux utilisent des codes de genre. Je veux dire, dans Les Démons, il y a des codes du cinéma d'horreur.
Absolument.
Je veux dire, Endorphine est un film de science-fiction et qui dégage une véritable étrangeté, tous les deux, je veux dire, dans le bon sens du terme, dans le sens extrêmement positif. Bon, ben voilà, je veux dire, notre cinéma continue à bouger. Récemment, j'ai fait l'exercice de me replonger dans les 5 dernières années. Je veux dire, c'est fascinant. Quand on est collé comme ça, effectivement, à un moment donné, bon, on s'essouffle parce qu'on va voir, on va être trop proche du film précédent. Quand on prend un tout petit peu de recul, notre cinéma bouge énormément. Et là, je parle juste d'un tout petit... de la pointe de l'iceberg. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre tradition, c'est le documentaire, qu'on a à Montréal une pépinière de cinéma expérimental et de cinéma d'animation qui est reconnue mondialement.
Absolument.
Et ainsi de suite. Et, je veux dire, et tout ça, ça va nourrir le cinéma le plus connu, le cinéma de fiction. Le cinéma fiction a toujours été nourri par toutes les autres formes. Mm-hmm. Et bien nous, je veux dire, on est bien placés.
Voilà, étonnamment, ce sera un truc sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard si on a le temps, mais le cinéma d'animation n'arrive pas à exister en long métrage. On est encore bloqué. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, on reste un peu bloqué parce qu'on reste une cinématographie, malgré tout, avec peu de moyens et qu'on sait très bien qu'un
mais
film d'animation...
Il y a une couple de projets en développement qui ont reçu le feu vert et qui sont des... Peut-être. Il y en a un en particulier qui a reçu un feu vert de Téléfilm, je crois, et qui a vraiment l'air d'un film d'auteur animé, qui a l'air assez excitant. Non, moi, c'est pour ça que je suis assez optimiste. Mais par rapport à ce que vient de dire Philippe, moi, ça m'en prend plus. Je regrette, là, mais ça m'en prend plus.
Mais ça m'en prend plus parce qu'on est dedans. Si j'étais... on regarde l'Islande, puis on trouve ça incroyable, qui arrive à produire autant de films. Et bon, pas toujours des chefs-d'œuvre, mais de la qualité aussi, parce qu'on est eux à l'intérieur doivent s'impatienter, doivent savoir qu'il y a des gens encore plus talentueux qui dorment. Ou...
Ouais.
C'est sûr, c'est parce qu'on, comme tu dis, on est collé dedans. Moi, ça m'emmerde parce que moi, je suis obligé d'en voir parce que je croise les gens puis ils sont sur Facebook dans ma face. J'ai pas le choix de voir leurs films et je m'emmerde. Mais si on cinq films, tu sais, Les Démons, Endorphine et Félix et Mera, c'est tu sais. Dans une année, là,
c'est
énorme quand on y pense. T'sais.
Absolument.
Mais pour nous, toi, tu as un travail à faire en plus, c'est peu. La moyenne au bâton, on se retrouve un peu...
Alors c'est ça, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est trop exigeant avec notre cinéma?
On n'est pas assez exigeant.
On a raison d'être exigeant.
On n'est pas assez exigeant.
On n'est pas assez exigeant. C'est pour ça que le problème, il émane surtout du scénario. Puis c'est vrai, les gens qui le disent, ils ont raison de le dire. Parce que ici, on compte encore une fois sur les subventions. Bon, c'est des investissements, mais comptons-nous pas de menterie, là, c'est des subventions, surtout en écriture. On compte là-dessus. Ça nous donne à peu près de l'argent pour vivre une année et demie. Les producteurs sont impatients. Ils ne peuvent pas en développer tout plein. C'est les mêmes producteurs qui sont souvent financés par les institutions. Donc, il y a une espèce de... C'est un peu bâclé, cette affaire-là. Je n'aimerais pas de nom, mais si un distributeur X ou un producteur X développe un certain nombre de projets, il ne peut pas se faire abandonner par la SODEC ou Téléfilm, il va mourir. Il va devoir fermer son bureau, renvoyer le réceptionniste, l'assistant, puis il n'y aura plus son stationnement. Mm-hmm. Donc, ils vont être encouragés par ces gens-là. Donc, il y a comme... L'excellence n'est pas nécessairement reconnue. C'est vraiment... attends ton tour, tombe dans la bonne case, réponds au goût du jour ou au manque dans la grille, là, de pas la grille horaire.
Non, mais c'est la société d'aide aux entreprises culturelles. Comme tu le dis, c'est ça, il y a des boîtes, ils ne peuvent pas les abandonner, ils sont comme obligés de les
pitonner. Même les cinéastes, à un moment donné, encore là, je n'aimerais pas de nom, mais si un ou une cinéaste n'a pas tourné de film depuis 5-6 ans, et qu'elle revient, tout le temps, à un moment donné, faut l'encourager, sinon on vient de tuer un cinéaste qui va aller faire autre chose, qui va probablement même quitter la ville, puis aller exister ailleurs.
Mais je pense qu'effectivement, Raphaël a raison. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un problème avec les scénarios. C'est pas un cliché. Il y a un réel problème avec les scénarios. Puis ça remonte à une histoire. Moi, j'ai toujours en tête une phrase que m'avait dite Denis Arcand à un moment donné. Il avait été président d'honneur des rendez-vous quelque part dans les années 90. Puis je lui avais demandé ce qu'il trouvait de plus extraordinaire puis plus déprimant dans le cinéma québécois. Puis il disait, c'est la même affaire, c'est l'ancrage dans le réel. Il dit, c'est ce qui a fait la force de nos plus grands films et c'est aussi ce qui nous empêche d'aller de l'avant aujourd'hui dans l'imaginaire. Mmh. Et ça reste pour moi complètement d'actualité. Et ça va rejoindre cette histoire aussi du cinéma de genre, de notre incapacité ou de notre difficulté à nous projeter dans autre chose que le quotidien ou le réel. C'est vrai qu'on a du mal à ça, et c'est vrai que ça tient beaucoup plus au scénario qu'à la mise en scène, même si la mise en scène, bon, pourrait faire l'objet d'une autre discussion, mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans autre chose que l'observation de quelque chose.
Est-ce que c'est parce qu'on est trop lié à notre tradition documentaire? Est-ce que ça viendrait de là?
Je sais pas, mais je sais qu'il y a un effort là à faire, parce que... d'ailleurs, les gens qui se démarquent, c'est les gens qui sont capables de faire ce saut-là. Donc ça, en soi, c'est déjà éloquent. Je veux dire, quand on pense à Dallan ou... les gens qui se démarquent font quelque part ce saut-là. Ils le réussissent tous à différents degrés. Tandis que les autres, ceux qui restent, je dirais, englués dans une observation qui peut être parfois très fine de la réalité, hein, c'est pas ça, mais qui se circonscrit, qui se limite au réel, c'est moins évident et ça se voit quand on lit les scénarios.
Mais encore là, chaque cinéaste, chaque créateur a le droit de l'écrire et de le faire. C'est là que je reviens à mon... Et je ne parle pas de réel quota, je parle d'avoir une vue d'ensemble.
C'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire.
Je ne veux pas avoir une vision communiste de l'affaire. leur travail, je trouve, les institutions... Puis en même temps, c'est dommage que la SODEC et Téléfilm ne se parlent pas, que ce ne soit pas arrimé, cette affaire-là. Mais ça sert d'avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui est viable? Qu'est-ce qui va encourager? Tu sais, de répartir, de la jachère, finalement, répartir les grains sur le territoire, tu sais, alors que là, on se concentre sur le goût du jour, sur ah, là, les festivals, il faut aller à Cannes, il faut aller à Berlin. Je me répète. Mais n'empêche, ouais. Mais n'empêche que c'est là et ça existe quand même.
Est-ce qu'on accorde trop d'importance au rayonnement international, à ce prestige?
Qui en accorde? Certainement pas le public.
Les institutions, effectivement, pas le public.
On en a souvent parlé, je veux dire, aujourd'hui, le rayonnement des festivals, en dehors leur nom, il n'existe plus. Qui a gagné à Berlin? Qui a gagné à Venise?
Je veux dire, c'est vrai, mais en même temps, la simple sélection d'un film québécois dans un festival attire l'attention des médias et on en parle.
Oui,
et ça devient une information.
Ça fait un milliard et demi de communiqués de presse au moment où on a su Kim était à la quinzaine des réalisateurs. Je veux dire, qu'est-ce que ça va donner quand le film va sortir?
Zéro. Lorsque Rebelle s'est ramassé aux Oscars, ils ont ressorti le film en salle. Moi, j'avais les chiffres parce que les camions étaient à l'affiche. J'avais accès aux chiffres. Il ne s'est rien passé. Rien. Rebelle n'avait pas été vu par les Québécois. Il est ressorti en salle avec la grosse locomotive des Oscars. Il n'a pas été vu. Je pense que c'était des centaines de dollars par semaine. C'est ridicule.
Mais comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? C'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement?
Un des problèmes, moi, puis ça, pour moi, c'est un cheval de bataille. Ce sont les médias. À un moment donné, il faut faire une distinction entre être en compétition officielle à Cannes et être dans un panorama à Goa en Inde. Il faut arrêter de pistonner tous les communiqués de presse dans le journal comme si tout était équivalent. Mm-hmm. Lorsque moi, là, mon film Camion, j'ai remporté deux prix dans un même festival, dont un prix œcuménique.
Ouais.
Et quand on parle de Camion, c'est un film qui a été primé international.
Si on parle de Carlo Vivari.
Mm-hmm. C'est un film qui a gagné des prix. C'est un film qui a été récompensé partout sur la planète. J'ai gagné un prix. Lorsque j'étais dans la salle, et merci beaucoup aux journalistes qui étaient très sympathiques d'ailleurs, mais qui étaient payés par mon distributeur. Dans la salle, j'ai eu, je dois avouer, 600 personnes, très belles, mains d'applaudissements, bien sincères, vraiment le fun, un succès. Mais il a quand même employé le terme « ovation » dans son article. Il y a une distinction entre une ovation et une ovation debout. Elle n'était pas debout, l'ovation. Mais dans la tête du public, c'est ça. Alors, les médias ont besoin d'histoire. Puis je ne parle pas des revues spécialisées et tout ça. Je ne parle pas de vous non plus à la radio. Je parle de l'écrit au quotidien et des nouvelles à LCN. Ils ont besoin d'histoire. Et là, tout devient comme... Ça devient banal. Alors, il faut gagner la Palme d'Or. En bas de ça, c'est décevant. C'est pas... Un Cannes sans Québécois, quel échec. Ça devient un peu banal. On s'attend à ça. Comme tu dis, la surprise, c'est qu'on n'y soit pas. C'est même plus d'y être. Mm-hmm. Mais on confond avec tous les autres festivals, que ce soit...
Puis quelque part, ça vient rejoindre des vieux réflexes de colonisés qui ont absolument besoin de dire...
De on se est faire dire de l'extérieur.
Les gens à Locarno étaient là, puis ont trippé.
Je peux raconter quelque chose. Je le vis, puis toutes mes amies le vivent. Un film au Québec, un film moindrement d'auteur. On devrait accompagner ça d'un son à chaque fois qu'on dit d'auteur. La stratégie de sortie, on n'a pas de date. Il n'y a pas de date qui existe. Ça va dépendre de la sélection et ça va même dépendre du prix. Moi, Carlo Vivari, mon film, si je ne remportais pas de prix, on le sortait beaucoup plus tard. Mais comme j'ai remporté un prix, on avait une date de réservée, le 17 août, je crois. Et si on a un prix, si on fait un peu de présence médiatique au Québec, s'il y a des répercussions, des retombées, on va le sortir à cette date-là. S'il n'y a rien, on va le sortir caché après le FNC. C'est à peu près ça. Puis c'est vrai pour des gros films à 3,5, 5 millions. On attend d'être validé ailleurs. Bon, aussi, c'est une stratégie commerciale, mais n'empêche que c'est ça aussi. Puis quand les distributeurs s'assoient à la table devant Téléfilm et Sodec et qu'ils leur demandent votre plan de mise en marché, on va d'abord cibler un festival de renommée internationale et après, on va surfer sur la vague.
Mais c'est là que je pense qu'il y a une surévaluation de l'importance. Bon, il ne faut pas se leurrer, comme tu disais, Philippe. Bon, il y a Cannes, puis il y a le reste maintenant. Hein? C'est pas compliqué. Le seul festival qui est vraiment... Bon, que Dolan aille à Cannes, ça oui, ça va faire jaser. Ça oui, c'est important. Ça oui, les gens vont le retenir. Je pense qu'on a surévalué ça, puis... Je sais pas, il me semble qu'il faut faire du cas par cas aussi. Il y a une tendance maintenant dans les institutions, puis je les comprends, mais d'essayer de trouver le but sur balle automatique, que ce soit le box-office, que ce soit le prix, que ce soit l'affaire, qui évitera une analyse ou une discussion, qui représentera une espèce de mesure objective. On pourra sortir la feuille et on pourra dire, Bon, puis il faut savoir aussi, puis ça, Raphaël peut certainement parler mieux que moi, qu'en ce moment, bon, il y a quelque chose qui fait beaucoup jaser dans le milieu. Il y a la manière dont les projets sont évalués maintenant. Mm-hmm. Des évaluations de plus en plus sommaires qui font beaucoup jaser. Parce qu'essentiellement, ce qu'on renvoie, c'est une espèce de checklist où les choses sont très formatées.
C'est très
personnages déficients. Bon, c'est devenu... Il y a une espèce de refus de dialoguer autour des projets pour des raisons économiques, j'imagine, peut-être, oui. Je ne sais pas, ou stratégiques ou idéologiques, je ne sais plus.
Économique d'abord.
Économique d'abord. Mais bref, qui me semble être des économies assez mal...
Pour moi, je trouve que sacrifier un film pour conserver notre système d'analyse, même si je suis très critique du système d'analyse depuis le début, parce que bon, on accuse de faire de la comédie poète-poète qui ne fonctionne pas, de ne pas savoir repérer les perles en comédie, en cinéma de genre et tout ça, et encourager des cinéastes qui font du mimétisme, vous pouvez mettre dedans si vous voulez. Tout ça ensemble, je le juge, c'est certain. Par contre, on a permis de mettre au monde des Denis Côté, des Stéphane Lafleur, Robert Morin a le droit d'exister, Michel Langteau a le droit de faire ses films. C'est assez extraordinaire quand même. Ce qu'on aurait dû faire, quand il y a eu des coupures à Téléfilm et à la SODEC, ça aurait peut-être été de sacrifier un film ou deux et de garder le système en place. Il n'est pas parfait, mais il est beaucoup mieux qu'un système robotisé, qu'une grille d'analyse. Ça, c'est certain. Je veux dire, j'ai pu lire des commentaires. Moi, j'ai rien encore soumis, proposé, mais j'ai pu lire des choses d'amis cinéastes et c'est assez incroyable. Je veux dire, c'est un dialogue de sourds. C'est difficile à décoder, premièrement. Ça t'encourage pas à retourner sur ta table d'écriture ou... C'est un peu vide comme analyse, donc ça, c'est très dommage.
Mais... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et c'est... Il n'y a pas comment dire, de sous-texte dans ce que je dis. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la démarche de la SODEC en fusionnant ces deux-là, parce que d'un côté, ça vous, à la limite, ça rejoindrait ce que vous avez dit, d'accord? Puisque d'un côté, il y avait l'art, de l'autre côté, l'industrie. En gros, c'était ça. L'art, c'était...
Le cinéma indépendant, ça s'appelait comme ça.
Cinéma indépendant,
et puis l'industrie, donc,
1,5 million
avec
et moins.
L'obligation d'avoir des résultats au box-office, c'était de l'autre côté. Donc, quelque part, en fait, qu'on fusionne les deux et qu'on arrête de réfléchir comme ça, pourquoi pas? Après, si j'ai bien compris, dans leur nouvelle démarche, il y a le fait qu'il y a beaucoup trop de projets par rapport à leur capacité à les soutenir, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas se permettre de mal soutenir un projet, puisque c'est le condamné à mort. Alors, pourquoi donner un peu d'argent à quelque chose qui est condamné à mort? Donc, je n'arrive pas à me positionner par rapport. D'autant plus que je n'ai pas vraiment compris quel est l'objectif derrière cette fusion des deux fonds.
Je pense que c'est d'abord une économie au niveau de la bureaucratie, tu sais, puis ils se sont dit, c'est pas de l'argent qui est à l'écran, c'est pas de l'argent culturel, donc coupons là. On va faire moins de mécontents aussi, il n'y aura pas de soulèvement des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs et des diffuseurs. Des distributeurs, mais je pense que ça vient réellement de là. Je pense même pas que c'est idéologique. L'idéologie est venue au moment de la coupe, mais ensuite, comment on administre cette coupe-là, c'est purement des chiffres, c'est purement comptable.
On aura évidemment pas réglé la question du cinéma québécois aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'on a soulevé beaucoup, beaucoup d'idées autour de cette spécificité, si elle existe. Peut-être un manque de confiance, que ce soit du cinéma québécois envers lui-même, mais aussi des spectateurs envers le cinéma. Enfin bref, un manque de confiance assez généralisé. On approche de la fin de l'heure de ce tout premier podcast de 24 images. Mais avant de se laisser, je vous ai demandé un petit exercice, parce qu'après tout, on râle beaucoup sur l'éducation et le fait de ne pas tout à fait réussir à donner envie aux spectateurs de découvrir notre cinéma. Alors, je vous ai demandé d'en choisir un film que vous auriez envie de partager, de faire découvrir à nos auditeurs et qui sait, peut-être au public québécois dans son entier. Alors, Philippe Gageon, ton film québécois
C'était très large. Hein. Alors, du coup, j'ai choisi un film qui n'est vraiment pas récent et qui, en plus, à l'époque, n'était pas considéré comme un film, mais une vidéo. C'était « Essayez, sœur madame » de Robert Morin. Mm-hmm. Bon, parce qu'en fait, j'arrive à ce moment-là au Québec et ce film-là, pour moi, était dans une résonance, mais une résonance par le cinéma avec le monde. C'était pas un mimétisme avec le monde, mais ça épinglait la société québécoise de manière magistrale.
Georges Privet?
Moi, j'ai triché. Je propose un diptyque pour la suite du monde et Yes, Sir, Madame, à peu près pour les mêmes raisons que Philippe. Et aussi parce que j'aime bien l'idée de ces deux films-là ensemble. Je sais pas pourquoi. Au début de Yes, Sir, Madame, on voit le personnage qui vit dans son coin perdu sur une île. Quelque part, ces deux films-là, je me dis que ça résume en raccourci cette période-là de l'histoire du cinéma québécois. Et ça résume la gloire, puis une autre forme de gloire du cinéma québécois pour moi.
Raphaël Ouellet?
Je vais répondre sans répondre. Moi, j'ai envie juste de remercier Xavier Dolan d'exister. Et je crois que notre avenir comme cinématographie nationale va probablement passer par lui. C'est-à-dire, qui nous a un peu décomplexés et on commence à le sentir et on va le sentir encore plus dans le futur. Avoir plus d'ambition, viser l'excellence. Je ne parle pas de viser la France, je ne parle pas de viser les États-Unis, je parle juste de viser l'excellence, de se permettre de rêver plutôt que de se retourner sur soi-même et de faire ce dont on nous accuse depuis des années, c'est-à-dire un cinéma nombriliste. Xavier fait des trucs très autobiographiques par moment, mm-hmm. mais quand même très généreux, très ouvert, grande prise de risque et pas peur de rêver, de regarder par en avant.
Pour ma part, moi, j'aimerais vous suggérer un film qui est très difficile à trouver, malheureusement, mais c'est La maudite galette de Denis Arcand, qui, justement, je pense, réconcilie assez bien cette dichotomie dont on parle depuis le début entre cinéma de genre, cinéma d'auteur, cinéma commercial. Peu importe, c'est un très bon film et je vous encourage vraiment à mettre la main dessus si vous réussissez, parce que malheureusement, il est assez difficile à trouver, mais...
On l'éditera.
On l'éditera, exactement. On l'éditera, 24 images est là pour vous. Merci infiniment, Philippe Gageant, Georges Privé, Raphaël Ouellette, d'avoir participé à cette toute première édition du podcast de 24 images. Et on espère vous retrouver à l'écoute dès le mois prochain. Merci beaucoup à tous.